Bonjour à tous. Je suis très heureux, très honoré. Je remercie votre pasteur de la place qu'il m'a laissée ce matin, dans cette journée, parmi vous. Beaucoup, certainement, m'ont aperçu depuis les 7 années que Myriam, Timothée sont là sur Annecy. Beaucoup ont dû m'apercevoir dans la salle. Peu, peut-être, savent que je suis moi aussi pasteur, puisque ma fille a un petit peu fait une sorte de vœu de discrétion. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, cela fait à peu près 36 années que je sers le Seigneur au sein de la mission de Cigane. Et je suis très fier ce matin de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Alors tout de suite, vous avez bien compris le nom que je porte sur vos programmes et mon petit accent. Je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire d'où je viens. Mais ce qui est important ce matin, ce n'est pas moi, je répète, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On fait tout de suite une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et on va lire du verset 7 jusqu'au verset 13. Je n'ai pas voulu, et je pense que Dieu a dirigé ainsi, sortir un peu de cette ambiance de Pâques dans laquelle nous sommes. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. » Si vous le permettez, j'aimerais qu'on reprenne le Seigneur. J'ai cette habitude, j'ai du mal à m'en défaire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour ta parole qui va encore être annoncée ce matin, pour cette liberté que nous avons dans notre beau pays, pour prêcher ta parole, Seigneur. Je te demande de diriger, de conduire chaque mot, chaque pensée, Seigneur, par ton Esprit Saint, que je puisse m'effacer devant toi, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place. Au nom du Christ bien-aimé, au nom de Jésus, merci Père Céleste. Merci Maître. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Une question qui a été posée à un homme qu'on ne connaît pas, mais qui nous est posée à nous ce matin. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où est ce lieu? Aujourd'hui, si on nous posait la question, mais où donc le Christ, le Seigneur Jésus, communie-t-il avec ses disciples? Ben nous dirions tous, mais c'est dans une église évangélique, forcément, et certainement une église où le plein évangile est prêché. Donc la question nous est posée à nous ce matin. Est-ce que le lieu, nos églises, d'une manière générale, est-ce que nos églises sont un lieu, sont un endroit où le Maître peut communier avec ses enfants, avec ses disciples? Est-ce que réellement il a cette liberté de le faire? Est-ce que réellement il a cette joie de le faire? Communiez avec nous. C'est le maître qui pose la question. Et il dit, vous direz au maître de la maison, parce que dans le monde il y a beaucoup de maîtres. Maître de maison, pour les plus anciens parmi nous, ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, on appelait nos instituteurs, nos professeurs, des maîtres d'école. On a les maîtres de conférences, on a des maîtres d'armes, on a des maîtres de philosophie, on a toutes sortes de maîtres dans ce monde. Mais lorsqu'on dit le maître, je pense que la plupart d'entre nous avons compris de qui il s'agit, le maître. Dans mon texte, il n'y a pas de M majuscule, mais moi j'aurais voulu qu'il y en ait un. Un M majuscule, le maître. Et c'est le maître, j'espère que vous êtes venus écouter ce matin, non pas Schillinger André, parce que Schillinger André, déjà, c'est pas un nom terrible, mais le maître. J'espère que c'est pour lui que vous vous êtes déplacé, et j'espère que c'est que de lui que vous attendez un mot. Alors, où est cette salle? Où est cette salle où je peux, effectivement, communier avec mes enfants? Nous avons eu ce matin une introduction magnifique, je tiens à le relever, le groupe de chant m'a introduit mon message d'une manière extraordinaire et j'étais sincèrement très très touché par la présence du Seigneur. Donc il n'y a pas de problème, le maître est là. Il n'y a pas de problème, nous sommes bien dans une église où l'évangile est prêché. Mais est-ce que nous sommes tous dans cette même atmosphère, dans cette même conviction, dans cette même ambiance? Est-ce que nous sommes tous impliqués de la même manière? C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, pas spécialement pour l'église d'Annecy. Vous comprenez bien que ce message, je pourrais le prêcher dans n'importe quelle église de France ou du monde. Est-ce que le Maître, ce matin, peut communiquer avec toi? Est-ce qu'il a la liberté de le faire? Est-ce que cet endroit, vous savez, Dieu cherche? Il est dit dans la parole de Dieu, vous connaissez tous ce verset de Ézéchiel 22:30, « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. » Et le verdict est terrible, la suite du verset est terrible, mais je n'en trouve pas. Ce verset résonne depuis des siècles et certainement que des milliers de prédicateurs l'ont utilisé. Je n'en trouve pas. Est-ce qu'ici, sur Annecy, Dieu en trouve? Est-ce qu'ici, le maître en trouve? Des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche. Alors Jésus continue. Il dit, le lieu que je désire, le lieu que j'ai choisi, parce que Dieu a tout préparé d'avance et nous le savons. La Pâque a été préparée d'avance et je ne vais pas vous prêcher sur la Pâque. Vous trouverez une chambre haute. Une chambre haute aménagée ou meublée, selon les traductions. Meublée, aménagée. Et c'est là que nous célébrerons la Pâque. Une chambre haute. Est-ce que nos églises sont des chambres hautes? Haute, ça ne veut pas dire que les pièces ont de grande hauteur, vous avez bien compris. Ce sont des chambres en Israël qui se situaient à l'étage. Ce sont des chambres qui étaient un petit peu réservées pour le recueillement, pour des moments particuliers. Est-ce que nos églises sont de telles chambres hautes, des endroits réservés pour des moments vraiment particuliers, pas des endroits où on vient par habitude, des endroits où on vient parce que c'est presque une obligation, on est chrétien, on est chrétienne, on ne pourrait que difficilement louper le culte du dimanche. Est-ce que nos églises sont de véritables chambres hautes, telles que la Bible nous le rappelle et telles que Jésus l'aurait désiré, l'aurait voulu? Il avait un moment très particulier à vivre avec ses disciples. C'était le soir bien sûr, de la préparation de la Pâque, mais de la mise en place de ce saint repas, de cette sainte cène que nous célébrons depuis presque 2000 ans, chaque année, chaque dimanche, dans nos églises. Jésus avait une mission particulière. C'était pour lui une soirée parmi tous les jours et toutes les soirées qu'il a vécues en tant que maître sur cette terre pendant 3 ans et demi de ministère. C'était certainement la soirée la plus cruciale pour lui. Il avait encore des choses à dire à ses disciples et il a encore des choses à nous dire. Peut-être certains pensent que parce que ça fait 20, 30 ou 40 ans qu'il marche avec Dieu, que Dieu n'aurait plus rien à leur dire. Jésus avait encore des choses à dire à ses disciples. Si vous prenez l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte que Jean va placer le chapitre 13 au chapitre 17 de son évangile, 4 chapitres qui ce sont des enseignements du Christ, ce sont des paroles de Jésus, mais il les a placés là, dans cette soirée de la Sainte Cène, dans cette soirée dont nous parlons maintenant. Jésus a certainement dit beaucoup de choses. Et il a encore beaucoup de choses à nous communiquer. Une chambre haute, une chambre haute. Pierre, par exemple, dans Actes chapitre 10, verset 9, il nous a dit qu'il monta sur la terrasse pour y prier. Ces maisons avaient habituellement une terrasse. Et quand elles étaient effectivement un peu plus riches, elles avaient là, sur cette terrasse, une chambre particulière. C'était des pièces réservées pour le recueillement et la prière. C'est dans une telle chambre haute que les disciples ont connu la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est dans une telle chambre haute que Dorcas a été ressuscité par l'apôtre Pierre. Il l'avait placé là-haut. Et Pierre, en venant et en priant pour elle, l'a ressuscité d'entre les morts. C'est dans une telle chambre haute que Élie va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. C'est dans une telle chambre haute que Élisée va ressusciter le fils de la Tsunamite. Ces chambres-là n'étaient pas faites pour la mort. On avait un peu l'habitude, lorsque l'on lit la Bible, de constater qu'on y mettait les personnes défuntes. Mais Jésus voudrait nous rappeler que cette chambre haute que lui désire, ce n'est pas une chambre pour les morts, c'est une chambre pour les vivants. C'est une chambre de vie. C'est la chambre de la vie, c'est la chambre de la vie et de la vie en abondance. On devrait trouver dans nos églises une vie en abondance. C'est ce que Christ nous a promis, c'est ce que Christ désire, c'est ce que Christ veut. Une vie en abondance, pas la vie que nous pourrions créer. On peut essayer par toutes sortes de moyens modernes aujourd'hui de dire on va créer la vie, on va créer l'ambiance, on va faire que ça semble vivant, ça paraisse vivant. C'est pas ce que Jésus veut. Il veut que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Et la vie se manifeste. La vie se traduit par, c'est vrai, des prières particulières, des chants particuliers, une adoration particulière. Ce matin, j'ai goûté à la vie. Je vous dis sincèrement, parmi vous, j'ai goûté à la vie. Ça m'a même fait pleurer. Une chambre haute, c'était une chambre qui était loin du monde. Souvent, pour accéder à ces chambres hautes, on prenait une cour, on allait à l'arrière de la cour de la maison, et c'est là qu'il y avait un escalier extérieur qui montait sur les terrasses et qui permettait d'accéder à ces chambres hautes. C'est ainsi qu'étaient conçues au Moyen-Orient les habitations. Une chambre retirée, une chambre de laquelle, et souvent c'était des toutes petites fenêtres sur l'arrière de la cour, une chambre où on n'était pas... On n'était pas troublé, dérangé par ce qui se passait à l'extérieur, par les choses du monde. Une chambre où on ne pouvait pas forcément voir dans la rue principale du village ou de la ville dans laquelle elle était située. On ne voyait pas forcément les marchands ambulants. On ne voyait pas forcément les belles jeunes filles qui passaient pour ces messieurs, ou inverse. On ne voyait pas, peut-être, on n'entendait pas les dernières nouvelles du monde ou les dernières trouvailles ou les dernières blagues à sensation. C'était un endroit réservé pour Dieu, réservé pour la prière. Pourquoi je dis cela? Un homme m'a dit, j'ai cherché l'Église dans le monde et j'ai trouvé le monde dans l'Église. C'est terrible. Nos églises n'ont rien à voir avec le monde. Nous avons été mis à part, nous sommes un peuple élu, mis à part. Et on ne doit pas trouver dans nos églises ce que l'on trouve dans le monde, on doit y trouver autre chose. Je tiens à le redire parce que malheureusement aujourd'hui, vous savez, je circule aussi un petit peu. Des fois on se pose la question. Nous sommes appelés à... Nous sommes dans le monde, la Bible nous le dit et nous le rappelle. C'est Jésus qui le disait. Mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous n'avons pas à nous habiller comme le monde. Nous n'avons pas à chanter comme le monde. Nous n'avons pas à jouer la musique comme le monde. Nous n'avons pas à paraître comme le monde. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Amen. L'Église du Maître. Un endroit où le Maître règne. Un endroit où le Maître est présent. Alléluia. Voilà ce que on peut en conclure de ce désir de célébrer la Pâque dans une chambre haute. Puis Jésus précise, haute et aménagée, meublée. Pourquoi? Parce que Jésus avait décidé ce soir-là de célébrer la Pâque avec ses disciples, de préparer la Pâque avec ses disciples. Et c'était d'un repas dont il était question. Un repas. Vous saviez que Jésus voulait manger avec vous? Je ne sais pas ce que vous avez préparé pour midi. Je ne sais pas quels sont vos invités. Mais moi, je voudrais vous dire ce matin, de la part du Maître, que lui, il aimerait manger avec vous. C'est assez surprenant lorsque l'on... Bien sûr, on a célébré la Sainte Cène ce matin. 1 Corinthiens 10, 16 nous rappelle que le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? La coupe que nous buvons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Communion au corps du Christ, nous savons bien sûr que cette Sainte Cène représente ce corps meurtri, est le symbole de ce corps meurtri pour nous, de ce sang qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Mais c'est aussi la communion du corps du Christ. C'est la communion que l'Église célèbre chaque dimanche. On a décidé de le faire chaque dimanche. Ce n'est pas forcément tout à fait scripturaire, mais on le fait chaque dimanche parce que c'est bon de le faire. Il est bon de se retrouver ensemble. Il est bon de participer à cette même mémoration. Vous ferez ceci en mémoire de moi. C'était un véritable repas, vous le savez. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que c'était un véritable repas qui était célébré. Jésus aimait manger avec ses disciples. Vous croyez cela? Il n'a jamais refusé aucune invitation. Aucune. À tel point que dans Matthieu 11, 19, il va lui-même citer ce mot. Il va lui-même citer ce mot. Il aurait pu à la limite l'effacer, l'oublier, mais le maître n'agit pas comme les autres. Il va dire, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et l'on dit, c'est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. Jésus relate un mot que l'on disait de lui. Moi, ce que j'en retiens dans ce mot, ce n'est pas la calomnie, ni la méchanceté qui était apportée par ses ennemis, pourrait-on dire, mais c'est le fait qu'effectivement, Jésus aimait manger avec tous ceux qui l'invitaient. Et peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as oublié cela. Peut-être que tu as oublié l'intensité de la communion que Christ désire avec toi. Peut-être que tu as oublié que Jésus peut-être ne se contente pas, n'est pas rassasié, n'est pas satisfait d'un petit moment de louange, d'adoration pendant une heure le dimanche matin. Peut-être as-tu oublié que Jésus voudrait bien plus que cela. Il y a des repas célèbres dans la parole de Dieu qui nous parle de tout cela. Il y a les fameuses noces de Cana, premier miracle de Jésus, où grâce au Christ, l'inquiétude a été chassée pour laisser la place à la joie que l'on doit trouver dans un mariage. Il y a le fameux repas à Béthanie, où Marthe servait le maître, où Lazare ressuscité était présent, vous trouverez cela dans Jean chapitre 12, verset 1. Où Marie, sa sœur, à Marthe, va répandre du parfum sur les pieds de Jésus, les sécher avec ses larmes. Il y a le fameux repas de Zachée, où Jésus va presque tressaillir de joie, s'écriant « Le salut aussi est rentré dans cette maison ». Pourquoi ? Parce que Zachée s'était engagé à donner, s'il le fallait, la moitié de ses biens, de le distribuer. Il y a le fameux repas chez Matthieu, le péager. Tous ces repas nous sont relatés dans la Bible, où un péager va devenir un disciple du maître, et où Jésus, bien sûr, encore une fois, va accepter l'invitation. Il y a le repas chez un pharisien, Simon le pharisien, où une femme pécheresse qui faisait scandale, qui a scandalisé tous les hommes religieux qui étaient présents dans ce lieu, va trouver la grâce et le pardon de ses péchés. Le salut, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a même des pique-niques dans la parole de Dieu. Magnifique. Il y a un pique-nique célèbre où avec 5 pains, 2 poissons, vous l'avez tous entendu prêcher des dizaines et des centaines de fois peut-être, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, vont être rassasiés par le maître. Assis dans les prés, assis dans l'herbe, 50 par 50. Magnifique. Il y a un autre pique-nique, je pourrais dire. Chez nous, les gens du voyage, parmi les tziganes dont je fais partie, on dirait plutôt une grillade. C'est une grillade. Une grillade préparée par le maître sur le bord du lac de Galilée. Alors que ses disciples avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, voilà que Jésus, au bord du lac, les interpelle. Et peut-être qu'il vous interpelle, vous, ce matin, moi, nous tous, chrétiens de cette terre, enfants, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Vous n'êtes pas rassasiés? Vous avez faim? Venez, venez. Jésus avait préparé une petite grillade de poisson pour ses disciples. Encore, j'aurais voulu y goûter à cette grillade-là. Que j'aurais voulu y goûter. Combien de repas célèbres. Et ce qui est extraordinaire un peu, c'est que c'est l'apôtre Jean qui nous en parle le plus. Lorsque vous connaissez un peu les différences entre les évangiles, vous allez voir que c'est l'apôtre Jean qui va le plus relater ces repas. Lui qui a introduit son évangile en disant, Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. Amen. Voilà ce que l'apôtre Jean avait compris du maître. Mais ça ne l'a pas empêché de relater tous ses repas. Le maître se met à notre hauteur. Il se met à notre dimension. Il se met à notre portée. Il dira à l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous savez, Jésus utilisait les bons mots. Il savait pourquoi il utilisait là le mot « souper ». Lorsqu'on invite quelqu'un à midi, c'est pour l'honorer. Lorsqu'on invite quelqu'un, en tout cas c'est ma manière de voir les choses, peut-être vous ne la partagez pas, mais c'est ma manière de concevoir les choses. Lorsqu'on invite quelqu'un pour le souper, ça veut dire que l'heure va peut-être être tardive. Ça veut dire qu'il va peut-être rester pour une partie de la soirée. Ça veut dire même peut-être que s'il est trop fatigué pour entrer, on va peut-être même lui proposer de dormir chez nous, de l'héberger. C'est beaucoup plus intime. Jésus voudrait des choses beaucoup plus intimes de notre part, beaucoup plus proches. Souvent, nous, on a donné à notre vie chrétienne une limite, des limites, une dimension. Est-ce que peut-être le maître pourrait-il bouleverser ces dimensions? Est-ce que le maître pourrait briser ses limites, peut-être, ce matin? J'en sais rien. Je souhaiterais qu'il le fasse pour moi, personnellement. Il faut que je fasse attention au micro. Je parle souvent avec les mains, excusez-moi. Pourtant, je ne suis pas d'origine italienne, vous l'avez bien compris. Je suis d'origine alsacienne. Il voudrait souper avec nous. Et puis, ce que nous attendons tous, encore une fois, il est question d'un repas, plus qu'un repas. Il est question d'un festin. D'un festin, Apocalypse chapitre 19, verset 9, les noces de l'agneau sont arrivées. Amen. C'est ce que nous attendons, nous, peuple du Seigneur, le festin des noces de l'agneau, où nous serons à la première place avec le Maître. Alors si Christ a autant parlé de repas et de souper et de noces, et qu'il s'est autant réjoui dans son ministère terrestre pour le faire, on a peut-être quelque chose à apprendre ce matin. On a peut-être à nous aussi apprendre à nous réjouir de cette communion que l'on peut avoir autour d'une table. Parce que la Sainte Cène aujourd'hui, ce n'est plus qu'un petit bout de pain et puis un petit gobelet de vin que nous prenons ensemble. Mais on pourrait peut-être prendre autre chose ensemble. On pourrait peut-être de temps en temps se réunir à droite, à gauche et avoir une communion un peu plus profonde, un peu plus intime les uns avec les autres, si nous sommes la famille de Dieu, tel que nous le disons, tel que nous le chantons. Ne serait-il pas bon que nous soyons un peu plus proches des uns des autres? Croyez-moi, j'ai prêché ce message dans nos assemblées. Parce que effectivement, on se rend compte que petit à petit, l'Église est devenue plus qu'un local, un endroit. Et que peut-être cette communion que Christ attend des uns des autres, et communion avec lui en priorité, n'est peut-être pas à la hauteur du maître. Je cherche une chambre haute, meublée, ameublée, où je vais pouvoir célébrer la Pâque avec mes disciples. Et il l'a fait, il a célébré cette Pâque. Peut-être que vous avez tous vu des tableaux célébrant la Sainte Cène. Bien sûr, on a très peu de détails dans la parole de Dieu. Mais les peintres et tous ceux qui ont désiré représenter ce moment particulier, ce moment extraordinaire, ont dessiné. Et je pense que c'était peut-être pas très loin de la réalité. Souvent, on voit une grande table dressée en long, et puis le maître, il est où? Ben, il est au milieu. Il est au milieu. Il ne peut pas être ailleurs. Pourrait-il être ailleurs dans nos églises qu'au milieu? Pourrait-il être au fond de la salle? Non, c'est pas possible. Pourrait-il être caché dans un coin? Ce n'est pas possible. Le maître était au milieu. Il est le centre de la réunion. Il est le centre de notre vie chrétienne. Il est au milieu. Et puis souvent, alors, il n'y a pas de nom au-dessus. Hein. Vous savez, les peintres, ça aurait gâché leur tableau. Ils n'ont pas mis le nom de chaque apôtre au-dessus de leur tête pour qu'on les reconnaisse. Il y en a un qu'on va trouver très facilement. C'est l'apôtre Jean. Puisque le texte nous dit qu'il était la tête appuyée sur le poitrail, sur la poitrine de Jésus. Alors, celui qui est juste à côté de Jésus, penché sur le Christ, c'est Jean. Magnifique. Alors les autres, difficile à savoir qui était représenté, puisqu'on n'a aucune description physique des uns et des autres. Mais moi, je voulais un peu m'imaginer cette ambiance particulière de cette soirée de Sainte-Cène, d'institution de la Sainte-Cène. Parce que le maître, vous le savez tous, connaît nos pensées les plus intimes. Il sait tout ce qui se passe dans nos cœurs. C'est embêtant. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas vos pensées. Et je suis, merci Seigneur que je ne les connaisse pas. Je crois qu'on serait des fois un peu déroutés. Le maître connaît les pensées. Et je pense que lorsque, effectivement, il regardait un peu ses disciples les uns les autres, il a dû trouver des choses assez étonnantes. Et la Bible nous en parle. Si je me permets de le dire, c'est que la Bible nous en parle aussi. Certainement, lorsqu'il a croisé les regards de Judas, il n'y a pas de Judas parmi nous, hein, comprenez bien, je n'ai pas dit ça. Mais peut-être quand même des personnes qui ont la préoccupation de Judas, qui peut-être se disaient, mais combien ça va encore coûter tout cela? 12 plus 1, 13 à table. Les femmes, nos femmes de maison savent ce que ça représente, 13 à table. Combien ça va encore coûter? Peut-être trouverait-il ça chez certains parmi nous. Peut-être trouverait-il aussi, dans les regards de son disciple le plus costaud, le plus fort, le plus armé, semblerait-il, Pierre. Peut-être verrait-il par moments, vous savez, deux visages. Ça nous arrive d'avoir deux visages. Hein. Certainement que lorsque Pierre se rendait compte que Jésus le regarde, il se redresse. Oh non, c'est moi, le disciple qui ne t'abandonnerai jamais, serait-ce jusqu'à la mort. Je te suivrai jusqu'à la mort. On connaît la suite du récit, je parle à des chrétiens, pas la peine de développer. Mais peut-être aussi, lorsque Pierre ne se rendait pas compte que Jésus le regarde, il aurait découvert chez lui cet air soucieux, inquiet. Ma femme, mes parents, mon commerce, mes ouvriers. Vous savez que Pierre avait des ouvriers? Pierre, Jacques, Jean avaient des ouvriers. Ils étaient associés ensemble sur le lac de Galilée et un des évangiles nous relate qu'ils avaient des employés, des ouvriers. Ils avaient un petit commerce, une petite entreprise. Nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Tout quitté, et c'était vrai. Dans la bouche de Pierre, c'était vrai. Des fois, nous, on le dit, mais est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment vrai? Nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Alors peut-être l'air soucieux de Pierre. Peut-être. Alors vous allez me dire, mais c'est pas marqué. Oui, mais en lisant et en apprenant un peu ce que chacun a dit et fait, je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. Pas très loin de la réalité. Peut-être en voyant Jacques. Peut-être aurait-il trouvé un regard de jalousie. Rappelez-vous que Jacques était venu un jour avec son frère Jean et sa mère, leur mère, était venue auprès de Jésus avec une prière tout à fait particulière. Permets que nous soyons assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu viendras dans ton règne. Jean était effectivement assis, je ne sais pas si c'était à la droite ou à la gauche de Jésus, mais en tout cas sur un des côtés. Où était Jacques ? Était-il vraiment de l'autre côté de Jésus? Ou quelqu'un aurait-il pris sa place? Serait-ce Pierre qui se serait assis à côté de Jésus? Combien des fois Jésus trouverait ce genre de questions, de sentiments dans nos cœurs? Peut-être parmi nous, dans nos églises. Des personnes qui ne seraient pas contentes parce qu'ils n'ont pas la place qu'il voudrait avoir. Vous savez que le texte dit clairement que les disciples, alors que Jésus était en train de leur parler de sa mort, de sa crucifixion, de ce temps terrible qui était devant lui, le même soir, la même nuit, et qui allait suivre toute la journée du lendemain, il est dit qu'ils discutaient entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Vous voyez qu'on n'invente rien, c'est marqué dans le texte. C'était des hommes comme vous, comme moi. Ah, ça ne nous excuse pas. Hein. Ça ne nous excuse pas de dire, ah, ils étaient comme nous, comme moi, donc je peux rester comme je suis. On oublie une chose. Je termine le dernier regard. J'allais l'oublier, mais ce n'est pas grave. Simon le Zélote, très peu connu celui-là. Hein. Pierre, Jacques, Jean, on connaît. Simon le Zélote, qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans l'équipe? Qu'est-ce qu'il fait là parmi les 12? Peut-être que lui, dans son regard, il aurait découvert autre chose. Peut-être que lui, déjà, s'imaginait. Ah, Jésus va rentrer dans Jérusalem. Jésus va chasser les Romains. Jésus va prendre le pouvoir. Il va devenir le roi que nous ont promis les prophètes. Tout ce que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament. Quelle place que je vais avoir. Quel ministère que je vais exercer. Peut-être. C'était Simon le Zélote. Vous comprenez bien. Ses origines laissent penser que lui, son désir. Il était parmi ceux qui acclamaient certainement le plus Jésus lorsque monté sur un ânon, il rentrait dans Jérusalem et que tout le monde s'exclamait « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David !» Ça y est, le moment est venu, il va prendre le pouvoir. Ah, mais il n'avait pas compris que c'est le pouvoir de ton cœur que Jésus veut prendre. Ce n'est pas le pouvoir de ce monde. Le pouvoir de ton cœur, de tes pensées, de tes sentiments, de ta vie intime, de ton couple, de ton foyer. C'est ce pouvoir-là que Jésus veut prendre, et non pas un autre. Il n'y en a qu'un seul qui l'avait compris, et je termine. C'était justement notre petit Jean, là. J'aime bien prêcher sur Jean. Ma femme le sait, ma fille le sait, c'est un message. J'aime prêcher sur Jean. Le disciple de l'amour. Oh, il n'a pas toujours été comme ça. Hein. Il était appelé fils du tonnerre avant. Fils du tonnerre, c'est pas rien. Parce qu'il avait certainement, des fois, lorsqu'il prenait la parole, je pense que s'ils les ont appelés Jacques et Jean, fils du tonnerre, vous savez qu'un jour, ils ont voulu faire tomber le feu du ciel sur un village de Samarie qui n'a pas voulu accueillir Jésus. Alors, vous avez bien compris qu'il n'a pas toujours été le disciple de l'amour. Mais il l'est devenu, au contact du Christ. Vous voulez devenir des disciples de l'amour? Il faut plus de contact avec Jésus. Il faut plus de temps passé avec Jésus. Il faut plus de communion avec Jésus. Et dans les chants ce matin, on en a parlé, ça m'a fait un bien terrible. Il faut plus de communion avec le Maître. Jean l'avait compris, il était là, appuyé sur le côté de Jésus et ne voulant perdre aucune de ses paroles. À tel point qu'à un moment donné, alors qu'il voulait savoir qui était celui qui allait trahir Jésus, et que tout le monde se posait la question, mais ça serait qui? Ils vont avoir l'idée, demandons à Jean. Demandons à Jean de questionner le Maître. À lui, il va le dire. C'est marqué dans les évangiles. Est-ce que vous êtes de ceux-là à qui le Maître parle? À qui le Maître confie des secrets? Est-ce que nous sommes de ceux-là? Est-ce que toi, Dédé, André, excusez-moi, je vous ai fait une révélation. Moi, on m'appelle Dédé. Dans la mission tzigane, je suis connu que sous le nom de Dédé. Ça, c'est sorti de ma bouche sans que je le veuille. C'est pas grave. Hein. Est-ce que tu es toi aussi, André, un tel homme? Est-ce que nous sommes de ces gens-là? On peut écrire Jean, J-E-A-N, ou Jean, G-E-N-S. Est-ce que nous sommes de ces gens-là? De ces personnes qui veulent rien louper, rien perdre? Pas une parole. Heureusement qu'il était au pied de la croix. Heureusement que, alors que le grand Pierre était en train de pleurer dans son coin, parce qu'il avait renié le Maître. Heureusement que le petit Jean, il était là. Récupérant chaque parole qui sortait de la bouche du Maître, n'en laissant tomber aucune à terre. Et si nous savons aujourd'hui ce qui a été dit et ce qui s'est vraiment passé, c'est parce que lui, il était là. quelqu'un qui voulait écouter non seulement les paroles, mais entendre la respiration du Christ. Vous avez le désir, vous, de sentir qu'il est là, Jésus. On le dit avec nos bouches, il est là, au milieu de nous, il l'a promis. Deux ou trois rassemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais est-ce qu'on a vraiment ce désir, cette envie de le ressentir? Qu'il est réellement là. Plusieurs dans leur prière l'ont exprimé, on l'a ressenti, que pour eux il était vraiment là. Est-ce que c'est vrai pour vous tous? Que Christ est là, que ce n'est pas simplement un moment de culte. C'est un moment particulier dans une chambre haute pour communiquer, pour communier avec le Maître. Chaque soupir, chaque parole, Jean voulait la recueillir. Et je termine. Jean avait compris que le modèle suprême, c'était le Maître. Pas de savoir qui serait le plus grand. Aucune importance. Pierre, Simon, Pierre, fils de Jonas. Après la résurrection du Maître. Simon, fils de Jonas, ça devait être terrible, rien que pour Pierre d'entendre ce mot. Vous avez vu tout à l'heure, voilà, le mot Dédé est sorti de ma bouche, je sais que vers les sédentaires, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu comique. Simon, fils de Jonas, mais tu m'as appelé Pierre. Tu as dit que j'étais un roc. Tu as dit que j'étais un rocher. Tu as dit que tu vas pouvoir t'appuyer aussi sur moi. Tu m'as donné un travail, tu m'as donné une mission et moi je voudrais tellement que ça reste vrai. Je sais que je t'ai renié, je sais que je t'ai renié trois fois. Mais j'aurais tellement voulu que ce ne soit pas vrai. Parmi nous, il y en a peut-être qui ont fait des faux pas, qui ont d'une certaine manière déçu le Maître. Et peut-être que ce message est pour vous ce matin, parce que Jésus va... C'est vrai, commencer par l'interpeller. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? C'est bizarre, dans le mot de Jésus, on pourrait dire, mais il veut créer une rivalité entre les disciples. Il semblerait-il qu'il veut créer des conflits entre eux. À tel point que lorsque Pierre voit arriver Jean, le petit Jean là, il va lui demander, mais et lui Seigneur, que lui arrivera-t-il à lui? Et Jésus est obligé de lui rappeler, mais t'occupe pas de lui, que t'importe? Toi Pierre, suis-moi, paie mes brebis, paie mes agneaux. Quelque part, Pierre est rétabli dans sa mission. Le Simon, fils de Jonas, redevient le Pierre. Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que nous le font ceux-ci? Le modèle suprême, et je termine, je vous promets, je termine, j'arrête. C'est le Christ, c'est le Maître, notre repère, notre référence. Je m'excuse, ce n'est pas le pasteur de votre église, ce n'est pas le responsable des assemblées de Dieu de France. Je ne sais pas comment vous êtes structuré, j'en sais rien, mais nous on a l'habitude de dire chez nous, ce n'est pas notre président Jimmy Meyer. La référence, le modèle, le barème, c'est Jésus. Ne vous comparez pas les uns aux autres. Essayez d'arriver au niveau que Christ désire, à cette croissance spirituelle que Jésus demande, que Jésus exige. C'est peut-être dur, peut-être certains diront, mais il n'a rien à nous apprendre, lui, certainement que je n'ai rien à vous apprendre. J'ai besoin de croître, moi aussi, mais je le désire de tout mon cœur. Je désire croître avec le Seigneur, grandir avec le Seigneur. Alors que Dieu nous aide tous, que Dieu vous aide, que Dieu m'aide et que le Seigneur en soit béni. Nous te remercions, Jésus.